tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous du lundi. Petit rituel pour se mettre en jambes. La bande-annonce de ce qui vous attend cette semaine, ça s'ouvre avec un repenti. David Desclos, du grand banditisme au théâtre. Une bande-annonce 100% énervée.
J'ai jamais vu quelqu'un parler du banditisme comme ça, ni de la délinquance comme ça.
Quand je racontais mon histoire, tout le monde me disait qu'il fallait que j'écrive un livre et en faire un film.
Il a passé 10 ans en prison et il n'en ressort pas aigri.
Il y a le spectacle, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de messages.
Ma mère se suicidait souvent. J'avoue, j'ai un peu tué quelqu'un en cours de route, mais ce sont des choses qui arrivent.
J'ai l'impression d'avoir toujours entendu dire, comme une espèce de légende familiale, que j'avais un arrière-grand-père rabbin.
Deux contre deux dans des draps exquis.
Dis-moi, quand tu commençais à avoir des doutes à mon sujet ?
La première fois que je t'ai vue, chérie, je me suis dit que tu étais trop belle pour moi, mais je me suis dit aussi que ça valait quand même le coup d'essayer.
France Inter.
Quand un tueur en série croise la route du grand banditisme.
Michel Fourniret est cette fois accusé d'avoir tué la femme d'un de ses anciens co-détenus pour récupérer le magot du gang des postiches.
Monsieur le Président, j'espère que vous n'êtes pas dans la posture du « dites-moi de quoi vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez ». Et vous ne ferez que jeter un bidon d'essence sur un incendie qui n'est pas circonscrit.
Toute bonne chose a une fin. Mais moi aussi, avant de crever, je vais retrouver ma mère et assassiner quelques personnages secondaires. C'est documenté.
Passage par la case prison avec l'écrivain québécois David Goudreau. Ce sera mercredi. Pactole et Gang des Postiches pour Patricia Touranchot. Ce sera mardi à NRV. Gang et Rap d'ailleurs avec Stomy Bugsy. On a entendu Léa Weinstein et Keren Ann qui sera en live jeudi. Du canard à l'orange au menu de mercredi avec Nicolas Briançon. Ce soir, un grand débat. Mais tout de suite, Christophe Comte qui dit tout sur Dao. Et les garçons de Radio Elvis en live. Générique.
Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Ah oui. Bonsoir, c'est le NRV. Nous sommes lundi 18 mars. Bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez, cette année, le NRV compte double. C'est dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde. Ce soir, trois garçons dans le vent. Radio Elvis, le retour avec un nouvel album, le deuxième. Ces garçons-là, sur la pochette, ils jouent au baby-foot. Ce soir, ils jouent en live, Marion Guilbeault.
Dans quelques minutes, Laurent, patientez. Ça vient.
Très bien. À leur côté, Christophe Comte, signe particulier, rock critique et flingueur, une espèce en voie de disparition. Christophe Comte, ex un rock passé indépendant, il signe un documentaire Dao par Dao, sujet qu'il connaît sur le bout de ses doigts pour France Télévisions. Il travaille sur le glam rock pour Arte. Ce soir, ce sera Comte par Comte. Bonsoir Christophe Comte.
Bonsoir Laurent.
Et dans le NRV la suite ce soir, grand débat. Emmanuel Macron joue les prolongations ce soir face à 65 intellectuels. Nous on sera combien, Christophe Boursier?
Nous on sera au moins 5 ou 6 parce que chez nous c'est le grand débat tous les soirs depuis maintenant 3 ans. Hein, Laurent, je vous le rappelle, sur France Inter. Puis on a beaucoup plus de monde en plus que le grand débat bien souvent. Enfin, c'est un autre débat. Vous savez Laurent, c'est au pied du mur qu'on voit le Macron. Enfin bon, hein, c'est, en tout cas c'est ma vision. Alors les invités, il y aura Vincent Jarousseau, photographe, documentariste. On lui doit les Racines de la colère, voyage dans une France qui n'est pas en marche. D'ailleurs, il est déjà venu. Il y aura également Laurent Saint-Martin, député La République en marche du Val-de-Marne. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Monique Cantos-Sperber, pardon, philosophe, auteur de La fin des libertés ou Comment refonder le libéralisme. Et last but not least, si je puis dire, Jean-Pierre Chevènement nous fait la gentillesse de venir. Lui, il sort un énorme livre qui fait 1500 pages que j'ai dévoré en quelques heures. Passion de la France.
Le énervé, allez, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on commence tout de suite en live avec ces garçons-là, c'est le titre de leur deuxième album, le nouveau Radio Elvis, Marion Guilbeault.
Ah ben c'est un groupe qui a tout bon, hein, tout bon depuis leur début. D'abord ce nom, quelle excellente idée d'associer les mots Radio et Elvis avec leur formation de power trio, comme avant eux Ramones, Jam, Police, Stray Cats, enfin, j'en oublie, il y en a plein. Leur début, ils se sont construits sur scène et avec une proposition musicale qui fait le pari de conjuguer lettres et électricité. En 2016, Radio Elvis avait fait très fort, un premier disque, Les Conquêtes, victoire de l'album Révélation. En 2019, ils poursuivent avec une écriture plus directe, autobiographique, l'envie d'être compris et de télescoper les genres. Alors, pourquoi plus de piano et moins de guitare? Pourquoi plus de jeux dans leur pop urbaine? Qui sont ces garçons-là? Ils sont là, ils s'accordent. Réponse dans quelques minutes après ce premier titre en live. C'est à vous, messieurs.
C'était un été ordinaire. Ces garçons-là étaient gentils, trouvaient toujours les mots pour plaire. Moi, je me cachais pour écrire. Ces garçons-là, ces garçons-là, ces garçons-là. Les filles avaient ce goût amer, j'en avais peur jusqu'à vomir. Ces garçons-là savaient y faire, moi je n'avais pas mon mot à dire. Ces garçons-là, ces garçons-là, ces garçons-là. Les couples levaient sans prévenir, ces garçons-là étaient virils. Et la violence à divertir avec ces garçons si faciles. Tiens-le, 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 tiens-le. Un jour ces garçons m'ont suivi et leurs motos ont fait rugir. La terreur à mes yeux rougit. Ces garçons-là m'ont fait courir. Je n'avais qu'une idée en tête: toucher la fille et puis partir. Montrer quel garçon j'allais être. Je voulais juste m'en sortir. Ces garçons-là, ces garçons-là, ces garçons-là, ces garçons-là. Alors j'ai crié comme j'ai pu. Les murs n'ont jamais eu d'oreille et mes parents n'ont jamais su que l'enfance y était perdue. Là-bas, 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 là-bas. Et je n'ai jamais pu oublier le visage de ces garçons-là. Je n'oublierai jamais. J'étais ce garçon ordinaire. J'étais ce garçon ordinaire. Avec son histoire à écrire. Promis, je ne vous oublierai pas. Je suis ce garçon ordinaire. Promis, je ne vous oublierai pas. Je suis ce garçon ordinaire. Ce garçon-là, ce garçon-là, ce garçon-là.
Merci.
Ces garçons-là, ce soir dans le NRV, c'est Pierre Guénard, chant guitare, Manu Ralambeau qui était à la guitare et Colline Russel qui a lâché la batterie pour les claviers. Bonsoir Pierre Guénard.
Bonsoir. Ces garçons-là, c'est le dernier titre de l'album, mais c'est aussi le titre de l'album. Comment on choisit d'ailleurs le titre de l'album? C'est toujours la dernière chanson? Quelqu'un nous a fait le coup récemment d'ailleurs,
oui,
hein, en disant, je sais plus qui c'était,
qui nous a dit ça.
Quand ça arrivait, c'était le dernier.
Ben ouais, c'est pareil pour nous.
Vous, c'est pareil.
En fait, c'est pas une règle, mais c'est vrai que ce morceau-là est arrivé à la fin de l'exercice de composition et d'écriture. Et puis, il reflétait bien ma démarche d'écriture, en tout cas pour le texte. C'est-à-dire raconter une histoire avec un système assez cinématographique et ne pas tout dévoiler, laisser de la place aussi à l'auditeur. Et puis c'est arrivé en dernier, on avait un autre titre qui s'appelait Exoto normalement.
C'est pas mal comme titre aussi, ouais, d'ailleurs, même pour un album. Ouais.
C'est plus comme un album de Dao, moi, je trouve, Exoto.
Et ben voilà, et puis finalement, cette chanson est arrivée juste avant de rentrer en studio, 2 semaines avant. C'est devenu une évidence, ces garçons-là, ça nous convenait bien. Voilà, c'est nous.
Je vous présente Christophe Comte.
Bonjour.
Bonjour. Vous connaissez?
On s'est déjà croisé, oui.
Interviewé ou jamais?
Jamais, non.
Écrire papier?
Non plus.
Flingué?
Non plus. Je suis totalement vierge, mais ça.
Christophe Comte, vous avez joué de la musique?
Alors, il y a très 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 longtemps et il n'y a aucune trace, même aujourd'hui où on retrouve
Dommage.
Tout, je crois qu'il n'y a rien et ça me réjouit.
Vous non, mais j'ai voulu vous à chantiez. Un moment... C'était un duo,
oui,
c'est ça
un duo,
avec
oui.
un autre Christophe.
Avec un Christophe Monnier qui a mieux réussi par la suite parce qu'il a fait un groupe qui s'appelait Micronautes, qui s'appelle toujours plus ou moins, et qui a été un des groupes de la French Touch. Ça a été un des premiers puisque Christophe a créé en parallèle à ça le fanzine Eden, qui a donné, enfin il était parmi les co-créateurs, qui a donné ensuite le film Eden, enfin
ah
qui
oui.
se réfère à ce fanzine, donc qui était vraiment le
film de Mensen Love,
voilà, qui était si on reprend le film, c'est vraiment les tout débuts de la French Touch, voilà. Et donc j'étais au premier rang, mais je ne savais pas.
Mais vous étiez chanteur au départ.
Oui,
donc,
oui, enfin chanteur.
Combien de temps ça a duré?
Ça a duré 2 ans, je pense.
Et vous aimez
enfin,
ça?
Deux ans.
Avec des concerts.
On a
sur
fait
scène
quelques concerts, ouais. Deux, trois concerts devant très peu de gens. Et en revanche, on a eu 2 supporters assez importants. Un qui était Stéphane Eicher.
Bah quand même.
Bizarrement.
C'est
et l'autre qui était Patrick Vidal de Marier les Garçons, qui à l'époque était DJ et tout, et qui aimait bien. Alors les deux voulaient nous produire, mais moi, j'ai jamais cru à cette histoire.
Et quel était le son que vous aviez à l'époque?
C'était très influencé par Taxi Girl. C'était
de la
synthpop,
quoi.
Parce qu'il y avait des synthés et un chant. Il n'y avait pas grand chose d'autre. Il y avait une boîte à rythme TR-808, là, la fameuse. Et puis, une basse pareil synthétique, donc c'était vraiment c'était la fin de la new wave, donc ça n'avait plus de sens en fait, c'était avant le fallait faire du rock à ce moment-là,
avant le revival de la new wave.
Pierre Gainard, oui, mais c'est toujours comme ça.
Pierre Gainard, il y a eu un groupe avant Radio Elvis.
Il y a eu d'abord c'était un solo, j'étais en solo sous le nom de Radio Elvis, et puis après Colin m'a rejoint, puis Colin a amené Manu. Il y a eu des groupes, oui. Mon premier groupe, c'était un groupe de métal, ça s'appelait Anachronia. Il n'y a aucune trace de ça non plus. C'est pas plus mal, j'étais
vraiment
pas
fait. Et vous chantiez comment alors?
Je faisais la guitare, je ne suis pas trop guitariste en plus, alors c'est vraiment scandaleux. Il y a eu un groupe de lycée, j'ai retrouvé des traces, et puis il y a des traces encore de Radio Elvis en solo, qui n'avaient vraiment rien à voir avec...
C'est-à-dire si ces traces étaient sur MySpace, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais tout a disparu.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, MySpace a complètement disparu.
Ils ont migré apparemment les serveurs, et ils ont perdu des millions de titres comme ça.
Tant mieux.
Vous étiez dessus, c'est ça, sur MySpace?
J'étais dessus, ouais, tout à fait. C'était beaucoup plus surréaliste, mais c'est comme ça qu'on a rencontré notre premier manager avec MySpace. Colin avait fait écouter MySpace à l'ancien chanteur d'AMMI, voilà, et qui a produit notre premier EP. Voilà.
Vous aviez pas un passé de slammer aussi?
J'ai fait du slam, voilà. Je ne dirai pas mon pseudo parce que ça aussi il y a des traces.
Ah ça, il y a des traces, d'accord. Donc pourquoi vous diriez pas votre pseudo?
Parce que c'est des prestations que j'assume pas spécialement.
Ah bon?
Voilà. Pourtant j'ai plutôt tendance à tout assumer, mais là.
Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas pour ne pas avoir?
Moi, c'est une période où je me cherchais beaucoup. J'avais 20 ans, je me cherchais beaucoup dans la vie artistique et dans la vie tout court. Donc c'est des périodes où on fait plein de choses. C'était plein d'entrain, hein. C'était plein de fougue, plein de naïveté. Donc j'ai fait des choses un peu osées et voilà, c'est une autre période de ma vie.
Bon, on va revenir sur la vie actuelle avec vous deux, parce que vous êtes le seul à parler pour ce groupe, ils sont 3. D'ailleurs, s'ils veulent nous rejoindre, ils peuvent. Hein, le micro,
j'aurais proposé, tous les micros sont ouverts. Non, il y en a qu'un qui parle.
C'est toujours Pierre Gainard. On vous a demandé des sons à chacun pour faire plus amplement connaissance, des sons qui vous ont construit, des sons qui vous ont marqué. Un son de victoire, bien sûr, pour vous, Pierre Gainard. Le générique des Victoires de la Musique.
Qui commence à vieillir un petit peu.
Oui, un petit peu. C'est... Ouais.
Mais
on a l'impression que c'est Michel Drucker qui va arriver. Ouais.
En smoking. C'est un souvenir très particulier pour nous parce que dans la vie d'un groupe, c'est très très important. Dans des vies personnelles, c'est tout aussi important parce que c'est quelque chose avec lequel on a grandi. Et puis c'est un rêve de gosse de passer juste aux Victoires. Puis d'en avoir une, c'était un peu inespéré.
Vous regardiez vraiment les Victoires de la Musique?
Oui, moi je regardais tous les ans. Ouais. Je me souviens de la prestation de Mathias Malzieu qui avait piqué les lunettes de Jean-Luc Delarue. Je lui en ai parlé quand je l'ai rencontré plus tard. J'étais, voilà, c'est un truc que j'ai beaucoup regardé. Je me souviens de Noir Désir aussi, de la lettre de Noir Désir à Jean-Marie Messier. C'est très particulier d'ailleurs parce que ces victoires-là, j'ai entendu mon discours il n'y a pas très longtemps. Quand on a reçu la victoire, je suis assez mal à l'aise avec ce truc parce que finalement, j'étais tellement ému, tellement content. J'étais persuadé qu'on allait gagner en plus. Alors, c'était très particulier. que quand j'ai fait mon discours, j'étais plutôt empreint de quelque chose qui m'appartenait pas trop. J'étais tellement empreint de tous les maîtres qui sont passés avant nous, que je crois que j'ai voulu faire un peu comme eux, parler avec leurs mots, mais pas parler avec mes mots à moi. Ce qui fait que ça a donné un discours un petit peu peut-être hautain, ou je sais pas, un truc qui me correspondait pas trop. J'aurais préféré plutôt improviser et juste dire merci.
Ouais, mais alors à ce moment-là, quand on improvise, on remercie son père, sa mère, les producteurs, c'est atroce.
Ouais, mais là, je pense que j'aurais voulu faire un truc plus court et plus simple.
Ah bah, ça sera pour celui-là. Prochain album l'année prochaine. Vous regardez les Victoires de la Musique, vous, Christophe Comte?
Moi, j'y vais aux Victoires de la Musique, mais je suis derrière, donc je vois pas grand-chose. Je suis backstage et je regarde de temps en temps quand il y a mais je vois pas toute l'émission, je vois juste au moment où la remise des prix. Et moi, contrairement à beaucoup de gens dans ce métier dont c'est l'habitude de les dire à chaque fois que c'est laborieux, moi, je trouve que les palmarès d'année en année sont plutôt pas mal parce que la sélection est assez large. On peut dire, oh là, il y a tout et n'importe quoi. Et quand on résume après, cette année particulière,
c'est rénové, hein,
et l'année dernière aussi, les nominés, pour la plupart d'entre eux, voilà, c'est plus des gens dont on parle dans la presse spécialisée.
Tout à fait. Ouais.
Il y a quelques années, les Victoires de la Musique, et d'ailleurs cette année, ils avaient mis dans les backstage, ils avaient mis des photos d'autres lauréats, mais il y a des gens qu'on a complètement oubliés.
Qui
à l'époque, il y avait Hélène Séguéra, des gens comme ça, qui recevaient des victoires. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La grosse variété, par exemple, n'est pas représentée.
Moi, je suis complètement d'accord. Quand on était passé, on était avec Claudio Capeo et Amir dans la même catégorie, et tout le monde nous posait la question, ah, mais qu'est-ce que ça vous fait alors, parce que c'est quand même complètement différent, mais moi je trouvais ça justement très bien. C'était la seule fois où on a pu partager la scène avec Jules, et moi j'ai pas de condescendance par rapport à cette musique là, même si c'est pas ma musique. Ça m'agace un peu en fait qu'on sépare tout le temps les choses, et je trouve qu'aux Victoires, justement, c'est le moment de réunir tout le monde. C'est une expérience super, moi je trouve.
Un son de radio pour vous, Christophe Comte.
Et à peine plus d'un mois après Joe Jackson, me revoilà à l'Olympia pour vous permettre de suivre en direct sur Inter ce soir. Un concert tout aussi exceptionnel, celui de Polly Jean Harvey, qui devrait entrer sur scène dans la minute qui suit. Je viens de la voir sortir de sa loge pour se diriger vers la scène. 1h30 en compagnie de Polly Jean Harvey, en direct sur Inter depuis l'Olympia.
Ah, la voix de
Bernard Lenoir.
Bernard Lenoir.
Bah oui, j'ai trouvé le clin d'œil assez marrant parce qu'évidemment c'était à la même place, à quasiment la même heure, je crois. Et puis, ouais. Puis moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça a beaucoup marqué les gens de ma génération, peut-être pas celle de Pierre, hein, mais nous, quand on a découvert la musique, c'était à travers France Inter, à travers Bernard Lenoir, Feedback, qui était une émission. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Pour écouter de la musique un peu différente, c'était là, quoi. Et ça a présidé, évidemment, à beaucoup de choses pour moi, parce que Lenoir a donné, d'une certaine manière, l'impulsion des In Rock. Moi, je suis arrivé après, et voilà.
Vous avez fait de la radio, vous aussi? Ça a commencé par là, en fait.
J'ai fait de la radio...
Ici, Londres.
Ici, Londres, là, vous êtes bien informé.
Bah, c'est mon métier. Puis c'est pas très difficile, il y a eu un grand entretien qui vient de paraître.
Je sais, tout le monde l'a lu, ce qui me paraît quand même un truc dingue, parce que je raconte ma vie, et ce qui n'a pas grand intérêt dans le fond. Mais,
Dans Gonzaï.
Ouais. Et effectivement, moi j'ai fait de la radio au tout début des Radios Libres, ça devait être en 82, et c'était vraiment Lenoir qui nous avait donné. D'ailleurs, je pense que si on retrouvait les bandes, et heureusement elles n'existent pas, on essayait de parler comme Lenoir, et même de temps en temps on le piratait, on entendait même sa voix parfois.
Ah ouais, d'accord, une sorte de...
Oui, parce qu'on n'avait pas moyen d'acheter des disques, donc on piratait Lenoir, après on faisait des coupes sur des cassettes, on enregistrait des cassettes sur des cassettes.
Ah, vous enregistrez les musiques qu'il passait, voilà, pour pouvoir
de temps en temps, il parlait
nourrir
sur les
votre
intros,
émission.
Voilà, et on entendait une syllabe de Lenoir. Et alors je lui ai dit que j'allais passer sa voix sur France Inter, et il vous embrasse, il a dit ça reste...
Ah, bah
toujours super, ma
nous aussi on l'embrasse, bien sûr. Un son de cinéma pour vous, Radio Elvis.
Keep walking, keep walking, and stop. Now say, I'd like a slice of cheese, please.
I'd like a slice of cheese, please.
You want a coke with that?
Sure.
I figured you were hungry.
Oh, thanks.
Un mot sur le film que vous avez choisi, Pierre Hénard.
C'est Heure, voilà, un film de Spike Jonze. C'est un film qui nous a beaucoup influencé pour l'écriture du deuxième disque.
Ah bon? Pour quelle raison?
Pour cet environnement urbain et la solitude qui s'en dégage, notamment à New York ou à Montréal. On aime bien ce film, déjà on adore, et en plus Spike Jonze, il a fait tous les clips d'Arcade Fire, qui est une grosse référence pour nous. La musique de Heure est vraiment géniale. Il y a une vraie poésie dans ce film. Et je trouve que c'est un film qui laisse beaucoup de place justement aux spectateurs. Et c'est ce qui nous plaît, nous, même dans notre musique, on essaye de laisser de la place à la réinterprétation, on essaye de pas mettre de la musique partout, on essaye de mettre aussi du silence. Et ce film résume bien tout ça, je crois.
Un son de cinéma tellement 80s qu'il en est formidable pour vous, Christophe Comte.
Tu me disais que ça allait très bien avec Rémi.
Mais oui, ça va très bien. Mais c'est pour ça que je suis plus vulnérable à la tentation, c'est tout.
Qu'est-ce que tu racontes?
Si j'aimais plus du tout Rémi, je serais sans défense et je m'emballerais pas si vite pour un inconnu.
Parce que tu t'emballes?
Le mot est trop fort, disons qu'il m'attire. Et ça m'arrive pas si souvent de rencontrer quelqu'un qui m'attire.
Mais t'attire comment?
Il m'attire, c'est clair, il me semble.
Et jusqu'à quel point?
Jusqu'au bout, si tu veux savoir. J'irai pas forcément jusqu'au bout. Tu devrais me comprendre, tu fais pareil avec les filles.
Vous savez que ce film, c'est ma vie, Christophe Comte. Écoutez, j'en suis ravi. Les Nuits de la pleine lune de Romère.
J'ai choisi
avec
ce film
Pascal Augier.
C'est le premier film que j'ai vu quand je suis arrivé à Paris. Vous savez, quand on monte à Paris, c'est quand même un grand événement. Et je me suis rendu compte que, en réfléchissant, que c'était le premier film que j'avais vu. Et ça avait déterminé énormément de choses parce que j'avais jamais vu un film de Romère. J'avais vu des films de Truffaut, de Godard, un peu, mais Romère jamais. Et cette... Déjà, ces dialogues incroyables qui peuvent paraître un peu artificiels aujourd'hui. Et puis, surtout, ça résonne avec le sujet qui m'intéresse là, c'est Dao, parce que Élie Jacquenot.
Il y avait Élie Jacquenot.
La musique d'Élie Jacquenot. Et puis,
dans une soirée, on les voit danser.
Cette atmosphère vraiment très mélancolique de ces années 80 qu'on présente toujours comme une sorte d'euphorie permanente. Et là, on voit quand même que dans les rapports de sentiments, il y a des choses très complexe, très dur parfois, et en même temps cette légèreté de surface qu'un homme comme Éric Rohmer, qui à l'époque avait déjà peut-être 60 ans, ou je ne sais pas, avait réussi à percer à jour de manière assez brillante et tellement émouvante.
On va vous retrouver tous dans quelques instants, tout de suite d'ailleurs, en live.
Rendez-vous.
C'est parti pour deux titres live, Marion Guilbeault, avec Radio Elvis.
Le temps pour eux de s'installer. Je vais vous donner quelques dates de concert. Marseille, Toulouse, La Rochelle, Lyon, Annecy, Audincourt, Rennes, le Trianon à Paris, ce sera le 4 avril. Montluçon, le Printemps de Bourges, le 20 avril, Saint-Étienne, les Francopholies de La Rochelle, le 10 juillet. Ils n'arrêtent pas. Radio Elvis, c'est à vous pour deux titres en live.
Ce n'est pas le revoir, ce dernier mot dans nos regards. Tout ne meurt pas en un soir, non, ce n'est pas ça le revoir. Ce n'est qu'une fin du monde, une longue maladie sans mémoire. Tout s'est écrit dans nos ombres, nous n'avons pas voulu le voir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce qui nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume, elle en tout ce qui nous fume. Nous avons tous les mêmes prisons, les mêmes désirs à faire naître, avant de tout faire disparaître, aux couleurs tristes des maisons, dans l'alcool caché sous l'évier, les silences lourds des dîners. Nous avons mais ce n'est qu'une fin du monde qui s'écrit sans nous le dire. Sous les cigarettes qui flambent, tout le monde se cache pour vieillir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout. C'est dessiné au hasard de nos mains trop lentes à écrire le sens caché de notre histoire. tout ce qui nous fume. Et dans tout ce que nous fume, tu vois tout ce qui nous fume. Et dans tout ce que nous fume, tout ce qui nous fume. Et dans tout ce que nous fume, tu vois tout ce qui nous fume. Et dans tout ce que nous fume, tout ce qui nous fume. Et dans tout ce que nous fume, tu vois tout ce qui nous fume. Et dans tout ce que nous fume, tout ce qui nous fume. Et dans tout ce que nous fume, tu vois tout ce qui nous fume. Et dans tout ce que nous fume, tout ce qui nous fume. Et dans tout.
Laurent Goumard sur France Inter.
La prochaine chanson est une chanson de Bachung. Elle s'appelle Joséphine. C'était les 10 ans de Bachung, alors on tenait à jouer un petit morceau. À l'arrière des berlines, monarques et leurs figurines, juste une paire de tenues dieux. Livrés à eux, ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi des scélérats. À qui sourit la vie? À qui sourit la vie? Marchez sur l'eau, évitez les péages, jamais souffrir, juste faire régner le chevaux du plaisir. À la nuit, rien ne justifie. Usez vos souliers, usez l'usurier. Soyez ma muse, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux durs, que les moments doux durs. Et que ne dure que les moments doux durs, que les moments doux durs. Et que ne dure que les moments doux durs, que les moments doux durs. Et que ne dure que les moments doux durs, que les moments doux durs. À la nuit, rien ne justifie. À la nuit, rien ne justifie.
Ouais.
Radio Elvis, merci. Qui revisite Osez Joséphine. La prise de son ce soir est assurée par Gilles Gaillard, Léo Prangère et Nasser Moussaoui. Et les vidéos sont à retrouver sur franceinter.fr. Pierre Guénard, Bachung, c'est une référence importante pour vous. Vous l'avez, on vous l'a beaucoup, beaucoup dit au moment de la sortie du premier album, Les Conquêtes.
Ouais, c'est une référence très importante. Moi aussi, je suis monté à Paris. Et c'était un événement aussi pour moi.
Vous veniez d'où, vous?
J'arrivais des Deux-Sèvres, à côté de Poitiers. Mais j'étais en provenance de Berlin, où je m'étais un peu perdu. Et finalement, j'ai appris la mort de Bachung à Berlin. Et je suis arrivé sept mois plus tard. C'était un grand regret parce que j'avais vraiment l'espoir de le rencontrer. Ça faisait partie des artistes comme Dominica, par exemple, que je rêvais de rencontrer en venant à Paris. Et puis j'avais l'impression d'arriver trop tard, encore une fois. Voilà. Comme pour beaucoup dans notre génération, voilà, on n'a pas connu Gainsbourg, on n'a pas connu tout ça. Enfin, voilà.
Vous avez vraiment cette sensation-là de votre génération d'arriver trop tard par rapport à quoi?
Par rapport au rock, par exemple. C'est vrai que nous, on se lance dans le rock en 2013. Et puis finalement, on se rend compte que c'est plus trop la musique dominante, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste qu'il faut la réinventer. Mais c'est vrai que on a forcément, quand on est jeune adulte, ou en tout cas quand on est ado, je désespérais de pas être né dans les années 60, parce que j'aurais voulu connaître les Doors, j'aurais voulu connaître même Jacques Brel, ça n'a rien à voir. Mais il y a plein d'artistes comme ça qu'on n'a pas eu l'occasion de voir sur scène. Et voilà. Mais il y en a plein d'autres qu'on peut voir en fait aujourd'hui. Donc maintenant, j'ai conscience que notre génération est tout aussi bien, mais...
C'est un sentiment que vous partagez aussi, Christophe Comte, à l'époque?
Moi, j'ai encore connu la fin quand même un peu de cette période, parce que j'ai quand même rencontré Bachung plusieurs fois. Gainsbourg, moi, ça a été mon drame de pas le rencontrer, parce qu'évidemment, pour le coup, c'était tellement incroyable de rencontrer Gainsbourg, j'imagine, d'après tout ce que j'ai lu, oui. Après, je comprends ce que dit Pierre, et c'est vrai qu'on a l'impression que cette époque-là n'est pas favorable au rock. Elle est favorable peut-être à une forme de chanson dont Radio Elvis se rapproche. Donc, il y a quand même, c'est plus compliqué pour des groupes de rock en tant
pur
que...
Pur et dur, ouais.
Là, il y a quelque chose chez eux de Dominica et tout ça. Donc, il y a quand même encore une certaine oreille pour cette chanson un peu littéraire, mais qu'elle soit habillée plus ou moins de rock. En revanche, oui, par rapport aux musiques urbaines, comme on dit, entre guillemets, on a l'impression vraiment, pour le coup, d'un combat totalement perdu. Mais bon, les choses reviennent aussi.
Pierre Guénard,
mais après, c'est vrai que la musique urbaine, voilà, comme on dit, je trouve que c'est très bien aussi parce qu'il se passe plein de choses. C'est juste.
Vous écoutez quoi en musique urbaine ou qui?
J'ai réécouté l'album de Nekfeu il y a trois jours. J'adore. C'est le dernier album de Nekfeu, par exemple. On aime beaucoup L'Homme Pâle aussi. Il y a Esprit Noir.
Vous êtes d'ailleurs allé chercher un producteur pour cet album-là qui n'est pas du tout, qui est pas a priori un producteur de pop ou de rock.
Ouais, il a fait Phoenix quand même.
Éric Desvins, mais qui est plutôt connu pour son travail dans l'électro avec Alex Goffer ou sur L'Homme Pâle.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que vous alliez chercher avec un producteur comme lui?
En fait, on voulait. C'était la fin du premier disque. On voulait absolument pas rester là où on était déjà, ce qu'on savait faire, c'est-à-dire rester dans les références qu'on avait déjà. Et moi, j'avais pas envie de rester statique dans l'écriture ni dans la composition. Et on voulait carrément aller chercher un producteur de hip-hop au début, même si on n'en fait pas du tout. C'était pour faire vraiment autre chose, confronter deux mondes vraiment différents. On n'est pas allé jusque-là, mais Pierrick Devin nous a semblé être le bon compromis parce qu'il avait cette expérience avec L'Homme Pâle, avec Nekfeu aussi. Et puis il avait cette expérience avec Phoenix. Donc,
et qu'est-ce qu'il a apporté donc pour ce deuxième album?
Il nous a apporté une nouvelle manière de voir le son, je crois.
C'est-à-dire
une technique de production qu'on n'avait pas utilisée jusqu'à présent. C'est très produit, notre album, par rapport au premier, où c'était peut-être un peu moins produit. Voilà. Et là, on a tout fait en live, on a enregistré sur bande. Et puis après, il a tout vraiment reciselé à sa manière. Il nous a apporté, moi, il m'a pas mal aidé sur l'écriture quand j'étais un peu perdu, quand je faisais mes prises voix. Je laissais pas trop de place à ça avant. Et on l'a laissé un peu plus faire, en fait, que le premier disque.
Christophe, quand vous vouliez intervenir.
Oui, non, je fais une question un peu anecdotique.
Mais mais c'est parfait. Moi, je me suis dit, il y a Marion Guilbeault, il y a Christophe Comte. J'ai rien à faire.
Est-ce que l'arrivée de Roméo Elvis a provoqué des guiproquos?
Ah oui, non, mais c'est vrai. Merci beaucoup. Mais complètement, ouais.
Mais oui, il faut en parler.
Roméo Elvis, c'est un autre groupe.
Ouais. Il faut en parler. J'ai fait un message sur Instagram en disant que non, nous ne sommes pas les frères d'Angèle.
Oui.
Mais c'est terrible pour lui aussi. Je pense que maintenant, il est devenu le frère d'Angèle.
Et oui. Mais ça a été compliqué pour vous.
Roméo Elvis.
Non, en fait, c'est assez étonnant. On a commencé à avoir ce nom il y a trois ans, je crois.
On peut juste rappeler qui est Roméo Elvis. Il y a peut-être comme des auditeurs.
Un groupe.
Non, c'est pas un groupe.
C'est un homme tout seul.
Un rappeur. C'est le frère d'Angèle. C'est le frère d'Angèle, mais il a déjà sorti quand même quelques albums. Déjà lui.
Ça cartonne très bien pour lui.
Voilà, il y a un nouvel album qui arrive d'ailleurs.
En fait, on a commencé à voir son nom il y a 3-4 ans, je crois. Moi, je ne l'ai pas, fait spécialement attention. Je m'étais dit, tiens, c'est dingue. J'espérais que s'il n'y ait pas le syndrome Fauve, il y avait déjà un autre groupe qui s'appelait Fauve, et ça a été terrible pour eux. Et puis finalement, on a joué à Bruxelles le même soir que lui, dans la même salle.
Non, c'est pas vrai.
Au Botanique. On s'est rencontrés à cette occasion-là. Et puis je lui dis, mais alors, d'où ça vient toi, Roméo Elvis? Il me fait, bah moi, c'est mon vrai prénom, je m'appelle Roméo Elvis Kiki. Enfin, il m'a dit, je m'appelle Roméo Elvis Kiki, parce qu'il a une voix beaucoup plus grave. Et moi, je lui dis, bon, bah écoute, t'étais là avant moi, alors.
Et alors vous, ça vient d'où ce nom?
Moi, c'était, quand j'étais avant que le groupe se forme, c'était les deux mots qui sont arrivés un peu spontanément, c'est devenu une chanson, c'était le nom de la première chanson que j'ai écrite. Et j'avais besoin d'un nom de scène parce que j'avais un concert à donner et puis j'avais rien à présenter. Donc j'ai pris ce nom de scène et puis ça a toujours eu vocation à devenir un nom de groupe. Donc quand Colin et Manu sont arrivés, la question s'est posée une demi-heure je crois et puis on a gardé ce nom-là.
Avant d'être Radio Elvis, avant d'être slammer, avant de jouer du métal, enfin peut-être après avoir joué du métal, il paraît que vous avez exercé plusieurs métiers. J'ai lu que vous aviez été croque-mort, pompier, c'est vrai?
Non,
ça,
plein de trucs, quoi.
C'est marrant parce que je l'ai dit une fois et depuis on m'en parle beaucoup.
Bah oui, c'est étonnant.
Ouais, j'ai fait plein de... Au départ, j'étais parti pour être sapeur-pompier, donc j'étais pompier volontaire chez moi, chez ma enfin là où habite ma famille. Et puis après, j'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé dans la restauration rapide, beaucoup, comme beaucoup de chanteurs. Et puis j'ai été croque-mort, oui, effectivement.
Mais, à Paris?
Non, à Poitiers.
Mais à quel âge?
J'avais 22 ans.
D'accord.
Ans, voilà.
Et c'était intéressant.
C'était très intéressant. C'était le petit boulot le plus intéressant que j'ai fait parce que finalement travailler à McDo c'est pas très intéressant. Et au moins quand on est aux pompes funèbres c'est facile d'accès. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. J'avais l'impression de servir à quelque chose. C'est un vrai rôle en fait dans la société. C'est la première fois que j'avais arrêté d'être pompier. C'était la première fois que j'avais un vrai rôle. Que mon métier ne servait pas à rien et qu'il y avait des gestes aussi très précis à faire et qui étaient importants pour les gens. Ça me faisait du bien quelque part, je crois. Voilà.
Et votre métier aujourd'hui, votre métier de chanteur, c'est un métier qui sert à quelque chose?
Oh, je crois. Et puis moi, je voulais toujours voulu faire ça. Donc, oui, c'est. Je pense que ça sert vraiment à quelque chose. En tout cas, quand on voit les réactions du public après le concert, parce qu'on prend beaucoup de temps pour parler avec eux à la fin, je crois que ça sert vraiment à quelque chose parce qu'ils nous disent pas juste c'était génial. Je crois qu'on reçoit beaucoup de messages sur le fait que ça accompagne les gens dans plein de passages de leur vie. Et ben, je trouve que c'est hyper touchant. Et puis sur ce disque-là, les gens s'identifient beaucoup aux chansons, j'ai l'impression, aux textes. Et ça me touche beaucoup. Voilà.
Ça vous touche le fait que vos textes sont un tout petit peu plus autobiographiques qu'avant?
Ouais, ça me touche en fait qu'on ne me dise pas simplement « t'écris bien ». J'aime bien. Là, le défi, c'était qu'on me dise aussi, qu'on nous dise à tous les trois que les chansons, que les personnes arrivent à s'identifier aux textes. C'est-à-dire que déjà, elles arrivent à les comprendre. Et sur le premier disque, qui était beaucoup plus surréaliste, qui était beaucoup plus dans la métaphore, parce que je voulais travailler le style avant tout, je trouvais que le fond avait moins de sens que la forme, enfin en tout cas que le style. Je me cachais beaucoup plus, j'étais beaucoup plus pudique aussi. Là, j'avais envie de raconter vraiment des histoires en essayant de moins me cacher, et puis ça vient de ce que j'ai lu sur le deuxième disque. J'ai lu des auteurs comme Rick Moody, qui ont une écriture très simple et très de la vie quotidienne. Et puis j'ai beaucoup écouté Vincent Delerme aussi et Souchon. Ce qui peut être assez étonnant par rapport à notre disque, mais je trouve que c'est des maîtres dans l'écriture qui arrivent à faire passer des émotions avec des mots simples. Et je trouve que la simplicité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à atteindre dans la musique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cet album.
Et elle est à l'œuvre donc dans Ces garçons-là, paru sous le label
Pias.
Vous restez avec nous, Pierre Guénard. On va reparler musique dans quelques instants avec Christophe Comte. D'ailleurs, tout de suite, on entre dans le vif du sujet. Étienne Dao nous entraîne à l'hôtel des infidèles. C'est quoi déjà le numéro de la chambre?
C'était la chambre du serpent, sifflant le chant des résistants, des infidèles, le miel et le goût entêtant du tabac gris, béni et de la poudre blanche artificielle, orgie noble mélancolie. Nous étions 12 en mal d'espace de liberté et refusion de nous livrer. C'était le rituel des dimanches pluvieux à l'épreuve du feu à Montparnasse, fiévreux, les oubliés de Dieu à la Louisiane, morsure sur mon torse fleuri et ce silence maudit dans la rue de Bussy. Nous étions 12 en mal d'espace de liberté et refusion de nous livrer, le cœur endeuillé, nu démasqué, le souffle court. Nous étions tous en mal d'amour.
Hôtel des Infidèles, la visite était guidée par Étienne Dao, un extrait de Blitz, son dernier album.
Le nouveau rendez-vous.
J'ai fait ce métier parce que autrement je me serais flingué. C'était l'évidence. Ma tête, mon corps sont fabriqués pour le métier que je fais.
Laurent Goumard, sur France Inter.
Très court extrait de Dao par Dao, votre documentaire programmé vendredi prochain sur France 3. Christophe Comte, je vous pose la question, et vous, que seriez-vous devenu si vous n'aviez pas fait ce métier, rock critique, 27 ans passés au journal Les Inrock, hein.
Très franchement, j'en sais rien, mais quand Dao dit ça, moi ça résonne un peu en moi, parce qu'effectivement j'avais pas de plan B, c'est-à-dire que je voulais faire ça, et après ben, j'aurais sans doute trouvé un travail, hein, comme tout le monde, mais c'est vrai que c'était ce qui me motivait depuis très longtemps, mais d'être de ce côté-là, c'est-à-dire
oui,
d'écrire...
Vous n'êtes pas du tout un musicien frustré.
Pas du tout, non. Mais il y avait Arnaud Vivian qui avait dit une fois une phrase qui m'avait fait beaucoup rire à propos d'un groupe. Il avait dit tout le monde dit que ce sont des musiciens frustrés, mais beaucoup de groupes sont des journalistes frustrés en fait. Je trouve que par moments ça résonne ce genre de phrase.
Dao par Dao, le film. Il y avait déjà eu la bio Dao chez Flammarion en 2017, donc on imagine bien qu'il se joue quelque chose pour vous avec Étienne Dao. Moi je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait de Dao en vous. Est-ce que c'est le côté province qui monte à Paris? Est-ce que c'est les origines, votre famille qui arrive en France en 62 en provenance d'Algérie, Christophe Comte?
Alors peut-être, mais alors c'est totalement le hasard, parce que moi quand j'ai commencé à m'intéresser à Dao, je savais pas du tout qu'il avait cette histoire. On l'a apprise d'ailleurs très tard en travaillant sur le documentaire, en regardant beaucoup d'archives. Il y a seulement en 2002, on lui pose la question dans un JT, juste avant, toutes les années avant, on pensait qu'il venait de Rennes, qu'il était breton, et c'est la première fois qu'on lui parle d'Oran. Donc ça a pas vraiment joué. C'est beaucoup de choses. S'il y a une chose personnelle, c'est ma sœur était très très fan d'Étienne Dao quand elle avait pile l'âge de la Daomania. Moi j'étais un peu plus âgé, et du coup oui, ça a beaucoup joué, parce que je l'ai beaucoup entendu et j'ai pu voir le phénomène que ça pouvait exercer sur une adolescente à l'époque. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire ce métier, je me suis rendu compte que ce type qui fascinait les adolescentes avait parcouru tellement de chemin que je me retrouvais, moi, adulte, à écrire sur la musique, à écrire sur ces disques de manière très sérieuse, alors que à l'origine, il était, et il le dit lui-même, de manière accidentelle, un chanteur, un poster boy.
Vous avez écrit d'ailleurs donc une biographie, une énorme biographie sur Dao. Qu'est-ce que vous avez appris de plus avec ce nouveau documentaire? Parce qu'il y règle par exemple des comptes, pas vraiment des comptes, mais des malentendus par rapport à certaines de ses chansons. Il parle de ses tourments, des difficultés aussi qu'il a eues avec certaines maisons de disques qui ne croyaient pas en certains albums. Qu'est-ce que vous avez, vous, appris, Christophe Comte?
Alors moi, j'ai
et que l'auditeur, le spectateur apprendra.
Je pense qu'il y a des choses qu'on apprend parce qu'Étienne a l'art de toujours sortir une nouvelle info qu'il n'a pas dite avant. Là, il y a une séquence qui raconte, qui date de 93, au moment de sa grande tournée Paris ailleurs, où il tourne beaucoup à l'étranger, où il est
à Los Angeles,
quasiment en burn-out, et où il bascule quasiment, il est au château Marmont, où il veut
sauter
par la fenêtre. Ça, il ne l'avait jamais dit. On a eu du mal d'ailleurs à le garder dans le documentaire, parce qu'il pensait que les gens, du coup, allaient un peu fantasmer sur l'histoire d'un suicide avorté. Mais en tout cas, nous, on a voulu le garder, parce que ça montre aussi que quelqu'un qui est à l'époque vraiment partout peut aussi avoir, mais ça on le sait, à l'intérieur de lui des trous noirs, parfois très 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 profonds. Et donc du coup, je pense que dans ce documentaire, vu qu'on lui a laissé la parole, c'est le témoin unique du film. Il parle du début à la fin. Je pense qu'il va un peu plus à l'intérieur des choses. Et même, je pense, moi, j'ai pas fait la comptabilité exacte entre le bouquin et le film. Mais il y a des choses qu'il n'avait pas dites à l'époque et qu'il a réussi à formuler là.
Dao, ça vous dit quelque chose pour vous, Pierre Guinard?
Oh ben oui, forcément.
Ouais. Ouais. Non, bien sûr, j'imagine. Mais voilà. C'est pas dans cette dimension-là, de ce côté-là, que vous avez regardé la chanson, le rock français.
Moi, j'y suis venu un peu plus sur le tard. Mais je sais que Manu, par exemple, est un gros fan de Dao. Moi, j'aime beaucoup. Il y a certaines chansons que j'aime beaucoup, comme Boulevard des Capucines, par exemple.
Boulevard des Capucines, justement, il lève le malentendu dans le documentaire par rapport à la chanson qui parle de son père. Enfin, cette lettre que son père lui adresse pour lui demander pardon. Oui.
Ouais, je trouve que c'est une belle lettre sur le. Enfin, c'est une belle chanson sur le rapport père-fils. Dominica en a fait une qui s'appelle Nos Pères aussi, qui est magnifique. C'est des sujets qui sont assez peu abordés et qui sont toujours très émouvants. Voilà. Et après, à côté de ça.
Vous en ferez une?
J'aimerais bien, ouais. Mais pour l'instant, il faut que ça vienne naturellement.
Ariane.
Christophe Comte, moi je me demandais, vous avez eu de nombreuses rencontres avec Étienne Dao. Moi je me demandais, depuis le temps que vous le rencontrez, comment sa parole à lui a-t-elle évolué?
Elle a évolué vraiment, et je pense que tous les gens qui l'interviewent depuis 20 ans ont vu quelque chose se décanter à un moment, parce que Dao, au départ, au tout début même de sa carrière, il y avait c'était même pas une attachée de presse, c'était une stagiaire, ou je sais plus, une standardiste, je crois, de Virgin, qui avait écrit une biographie qui était remplie d'erreurs, puisqu'elle disait qu'il était prof d'anglais, qu'il était né à Rennes, et cette biographie, lui, n'a pas voulu la changer, parce que justement, ça lui permettait d'une certaine manière de maintenir un flou artistique. Et pendant des années, toutes ces infos ont été reprises, y compris par Hervé Guibert, qui avait écrit un papier dans Le Monde sur Dao, où il reprend ces infos, prof d'anglais, né à Rennes, etc. Et Dao se drapait derrière cette fausse histoire, cette fausse mythologie, d'une certaine manière. Et là, ces dernières années, il a réussi complètement à ouvrir petit à petit, mais maintenant en grand, des choses extrêmement intimes, extrêmement personnelles. Et ça, c'est très étonnant quand on l'a connu à l'époque.
Oui.
Parce qu'à l'époque, il se contentait vraiment d'un discours minimal sur la musique. Il parlait jamais de lui, jamais de sa famille. Même les histoires sur son père, c'est venu. Même ses musiciens, pendant très longtemps, n'étaient au courant de rien. Ils tournaient avec lui et ils ne savaient rien de son histoire. Donc,
mais il y a eu un avant et après psychanalyse aussi. Il est allé rencontrer un thérapeute. Alors, et ça a libéré de la parole et même quelque chose de l'ordre de sa musique.
C'est ce qu'il dit. Il y a un avant, un après la psychanalyse qui date à peu près de cette époque justement du Château Marmont de 93. Mais bien plus tard, il y a eu aussi d'autres choses qui ont fait qu'il s'est... Quand il a été vraiment en paix avec lui-même, je crois qu'il a commencé à pouvoir raconter des choses. Je pense que le problème de Dao, comme celui de beaucoup de gens qui sont assez timides ou timorés, c'est d'avoir la phrase qui ne va pas, qu'on va reprendre. Il a tellement peur de ça, je pense que pendant très longtemps, il est resté bloqué. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
Alors on va se débloquer de votre côté. Je vous propose une sorte de questionnaire musical. Premier disque acheté ou volé? ou qu'on vous a offert.
Je pense que le premier disque qu'on m'a offert, que j'ai eu, qui était ma possession, c'était Les Marionnettes de Christophe. Alors, je dis toujours, c'est parce qu'il avait le même prénom que moi, enfin, même si c'est pas le sien. Et ma mère me dit toujours non, c'est pas vrai, c'était totalement le hasard. Mais j'avais Les Marionnettes de Christophe en 45 tours, que j'ai écouté 1000 fois.
Premier concert.
Bernard Lavilliers, je crois, sous chapiteau, je me souviens. En 81, je crois. Avant, j'avais vu Star Shooter, mais c'était gratuit, donc c'était pas pareil.
Le choc musical, vraiment votre choc musical dans les années 80.
Dans les années 80, comme beaucoup d'un rock, je dirais les Smiths, parce que c'était très important quand on les a vus arriver. Il y avait beaucoup de pop synthétique à l'époque, et d'un coup, les guitares revenaient. Même si, pour moi, le grand choc des années 80, mais c'est au tout début, c'est les Talking Heads, c'est Remain in Light.
Première interview, même si elle n'a pas été publiée, la toute première.
Celle de Taxi Girl, oui, en 82.
Vous étiez fan absolu de ce groupe?
Oui, c'était totalement le hasard, parce que j'étais vraiment très très fan depuis le tout début, depuis Mannequin, et ils sont arrivés donc à Arcachon, où j'habitais, faire un concert en 82, ce qui paraissait totalement improbable, parce que c'était...
Bah, Arcachon, c'était pas Rennes, hein, en effet.
Oui. Voilà, et puis c'était sur le port, dans un chapiteau, enfin ça n'avait aucun sens qu'ils soient là, mais ils étaient là, et donc du coup j'en ai profité, comme à l'époque j'avais commencé la radio, pour aller essayer de faire une interview avec, à l'époque, Jean-Daniel Beauvallet et Pascal Bertin, deux autres futurs un rock. Et on s'est retrouvé avec un magnéto à bande qui pesait 14 tonnes, qui n'a jamais marché. Mais on a fait une interview de Taxi Girl à l'époque. Il y avait Laurent Sinclair, et puis évidemment Daniel Darc et Emir West, tous les trois. Et c'était très drôle, quoi, parce qu'ils nous prenaient vraiment pour des minots. Et en même temps, ils étaient assez sympas. Et en même temps, ils étaient quand même un peu défoncés. Donc on était en plein soleil du mois d'août au bord d'un port. C'était vraiment, je regrette de ne pas avoir fait de photos, parce que bon, l'enregistrement n'existe pas, mais je pense que ça valait vraiment le coup.
C'était quoi la musique à Arcachon à l'époque, quand vous étiez jeune, en fait? C'était
vraiment le disco, pas le post-disco, si vous voulez, tout ce qui était ce qu'on appelait la musique funky. C'était ce qui marchait vraiment à l'époque. Mais je me souviens d'avoir entendu Étienne Dao, Le Grand Sommeil, dans une de ces soirées un peu en plein air à Opila, là où une espèce de dancing. Et il y avait eu passé énormément de choses à l'époque, Michael Jackson, je sais trop quoi. Et à un moment, il y a eu Le Grand Sommeil, et je crois que la piste s'est un peu désertifiée, mais j'ai été, moi, très marqué par cette voix très différente, et puis voilà, c'est pas ce qu'on entendait à l'époque.
Et quel est le genre musical qui vous fait éteindre la radio, Christophe Comte?
Généralement, aucun en tant que tel. J'aime pas le hard rock, le métal, pas le heavy metal. Ce que j'aime pas du tout, c'est le thrash metal, tout ça. Ça j'ai du mal à comprendre, mais il y a beaucoup d'autres choses qui me font. Mais c'est plus des gens, des artistes, plutôt que des gens musicaux.
Vous avez été critique rock pendant 27 ans aux Inrecuptibles. Mm-hmm. Est-ce que vous aviez des modèles pour l'écriture?
Oui, j'en avais quelques-uns qui étaient la plupart des modèles français, parce que moi j'ai appris à lire dans la presse musicale. Alors il y avait des gens, Mishka Assayas qui était à l'époque d'une génération un peu avant, mais pas trop, donc il y avait quand même à peu près les mêmes références musicales que nous qui écoutions Le Noir et compagnie. Donc Mishka, François Gorin à l'époque, mais aussi d'autres. Francis Dordor était pour moi un modèle, et après j'ai travaillé avec lui, et son écriture, disons que dans la rock critique, mot que j'aime pas parce qu'il y a rock et critique, et je trouve que ça, c'est un peu, les deux me vont pas.
Ah bon?
J'aime pas.
Journaliste musical, alors.
Oui, voilà, et je trouve que Francis Dordor avait déjà quelque chose de très littéraire, sa prose était à la fois limpide et savante, et encore aujourd'hui, c'est quelqu'un, moi, qui a été très important pour moi.
Pendant des années, vous avez été aussi le flingueur dans Les Inrecuptibles, la première page, on peut dire. Il y avait 300 ou 450, je crois, portraits de personnes flinguées dans tous les... Premier artiste que vous avez flingué, c'était qui?
Je crois que le premier, c'était, officiellement et de manière très forte, c'était Jean-Jacques Goldman. À l'époque, on avait une petite rubrique un peu où on faisait tout et n'importe quoi, et il avait sorti un album qui s'appelait Chansons pour les pieds. Et ça existait.
J'ai beaucoup écouté.
Facile. Voilà.
Ouais, vous avez beaucoup écouté. Ouais.
Et c'est pas tellement ça qui m'avait fait le flinguer, parce que c'était des pages d'actu en fait. Mais à l'époque, pour interviewer Goldman, qui donnait encore des interviews, il fallait fournir un CV et il fallait fournir une sorte de lettre de motivation. Et moi, je lui avais écrit ce qui était était le pré, qui préfigurait le billet dur, c'était la lettre de non-motivation, en fait. Donc, j'avais écrit une lettre de non-motivation lui disant, mais je m'en fous, j'ai pas envie de t'interviewer.
J'imagine que ça n'a pas marché. Nous, on avait envie de vous interviewer avec Marion. Une dernière, Marion, je crois, même si on n'a pas le temps.
Juste, est-ce que vous avez un équivalent dans la pop anglo-saxonne pour Dao?
Oula, équivalent de Dao, c'est une très bonne question. Je dirais à l'époque un peu Lloyd Cole, mais ça remonte à loin. Aujourd'hui, je pense que Dao a quelque chose de très français. Alors c'est compliqué parce qu'il a des influences très anglo-saxonnes et en même temps, je ne vois pas d'équivalent.
Et bon, on vérifiera ça vendredi prochain sur France 3. Dao par Dao, c'est votre film documentaire. Le prochain, ça sera sur le glam rock. J'ai lu pour Arte. Vous restez.
Viens de terminer là.
Voilà. Exactement. Bah, merci à vous deux. Merci, Radio
merci
Elvis. Merci.
Merci à vous.
Christophe Comte, le NRV première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes avec ça.
J'espère que vous n'êtes pas dans la posture du « dites-moi de quoi vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez ». Cela reviendra à nous avoir pris une fois de plus pour des couillons.
Grand débat, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le Macron, un titre de Christophe Bourseiller qu'on va retrouver après le journal avec nos invités. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.